Bonjour à tous, ici Chloé Mahé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Le conseil en stratégie, ça te parle ? Cette semaine, je reçois Corentin Maire et Pauline Alouen-Bessan, tous les deux consultants en stratégie. Corentin est pharmacien et consultant depuis près de 4 ans. Pauline est consultante junior et vient tout juste de finir ses études de pharmacie. Et vous allez le voir, ils sont tous les deux passionnés et très convaincants. Je dois avouer que j'ai moi-même eu envie de rejoindre l'aventure conseil santé après mon entretien avec eux. Dans cet épisode, je te propose donc de découvrir le témoignage de Pauline et Corentin, qui, je l'espère, répondra à beaucoup de tes questions, comme par exemple les opportunités en tant que consultant, le salaire ou encore la charge de travail, et bien plus encore. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, on va parler de l'activité de consultant. Et pour en parler, je reçois Corentin Maire, qui est consultant chez IQVIA en stratégie, et Pauline Alouette-Bessan, qui est également consultante en stratégie chez CMI. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous ?
Bonjour, ça va super bien, et toi ?
Super, super, ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast.
Bonjour à tous les deux.
Alors du coup, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter rapidement et revenir sur votre parcours ?
Vas-y Pauline.
Merci Corentin. Donc, bonjour à tous. Donc, Pauline Alouen-Bessan. Donc, j'ai un parcours de formation de pharmacienne. Donc, j'ai fait pharmacie à la faculté de Châtenay-Malabry, filière industrie. Et j'ai donc ensuite poursuivi par un master spécialisé management pharmaceutique et des biotechnologies au sein de l'école ESCP. À la fin de ce master donc, que j'ai terminé en 2021, j'ai fait un stage de fin d'études au sein du cabinet CMI, donc, dans lequel je travaille actuellement.
Merci Pauline, bonjour à tout le monde. Moi je suis Corentin, avec un parcours très similaire. Je suis aussi un pharmacien de Paris 11. J'ai aussi fait une école de commerce, j'ai fait le programme Grande École de l'EM Lyon. Et autre chose un peu différente, j'ai fait un an dans la Marine Nationale, dans l'armée française. Niveau professionnel, je suis passé par chez CMI avant Pauline, mais avant de faire du conseil en stratégie, j'ai commencé par de l'officine pendant mes études, comme beaucoup de pharmaciens. J'ai ensuite fait un peu de marketing, j'ai travaillé chez Bayer, en radiologie notamment, pendant environ 2 ans. J'ai aussi une autre corde à mon arc, qui est une start-up, j'ai monté une petite start-up pendant les études de pharmacie. Et après, j'ai rejoint le monde de l'investissement, notamment un stage en banque d'affaires, donc fusion-acquisition, M&A, puis du private equity, donc en tant qu'investisseur, j'ai fait un stage dans un fonds d'investissement français. Et ensuite, j'ai rejoint le monde du conseil, toujours dans cet univers de l'investissement et si possible avec la santé, donc conseil en stratégie qui accompagne les investisseurs dans la santé. J'ai également fait un petit boulot à l'Assemblée nationale en tant qu'assistant parlementaire.
Ok, merci pour la description exhaustive. Du coup, comme vous le voyez, on a deux profils, un profil un peu plus senior et un profil un peu plus junior, justement pour que vous ayez les deux sons de cloche et que vous puissiez vous faire un peu une idée. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun, tous les deux, définir le métier de consultant en une phrase ? Donc Corentin, je te laisse commencer.
Pour résumer le conseil, on va dire que faire du conseil, c'est mettre à disposition, vendre du cerveau, vendre une expertise, une capacité intellectuelle à des clients dont à un instant T, les ressources sont limitées ou pas adaptées pour un sujet ou pour un challenge ou pour un projet. Je ne sais pas si Pauline a une définition différente.
Oui, je suis d'accord. Après, peut-être je dirais que c'est aussi être en mesure de rapidement... être capable d'analyser le besoin, enfin le ou les besoins de son client pour pouvoir justement lui proposer des solutions qu'il n'a pas été forcément en possibilité, soit en termes de ressources ou de temps, de trouver de son côté.
Ok, super. Et quelle différence en fait avec le freelance ?
C'est une bonne question. En fait, en tant que consultant, tu peux faire du freelance. La différence quand tu rejoins une société de conseil, c'est que tu bénéficies de son réseau, de ses clients, de ses outils, de sa data, de son rayonnement. Donc freelance, tu peux faire du conseil si tu trouves des clients, si tu as les compétences adaptées, si tes outils te permettent d'être tout seul, tu peux faire du freelance conseil. Être freelance, en soi, c'est faire du conseil. Tu peux faire du conseil dans tous les domaines du monde. Et être freelance, c'est faire du conseil. Tu peux conseiller, ne serait-ce que c'est un peu n'importe quoi, mais quand tu écris un article pour un journal, quelque part, en tant que freelance, tu fais du conseil en publication. Donc en soi, c'est deux mondes qui sont très similaires. La différence quand tu fais du conseil au sein d'une société, c'est que tu es au sein d'une structure qui t'accompagne et qui généralement bénéficie d'un rayonnement.
Ok. Et quelles sont vos missions respectives? Donc, je te laisse commencer, Pauline.
Merci. Alors ça, c'est assez large, ça va dépendre de la typologie de client. Donc, chez CMI, au sein du pôle santé, on peut travailler pour à la fois l'industrie pharmaceutique, mais également les établissements de santé et le régulateur de soins, donc ministère, agence régionale de santé, notamment. Donc les missions, elles vont être très différentes parce qu'ils vont avoir des besoins différents, mais très globalement, ça va être des missions stratégiques sur les besoins des établissements de santé sur leur projet stratégique à 5 ans, par exemple, leur projet stratégique, leur projet médical. On va les aider à faire le diagnostic de l'état actuel de la situation et d'identifier ce qu'ils pourraient mettre en place sur les 5 prochaines années. Pour ce qui est des industries pharmaceutiques, on va en moyenne, pour la majorité des missions, ça va être de les accompagner sur l'optimisation du parcours de soins des patients, donc que ce soit en ville, à l'hôpital, réfléchir, voilà, à encore une fois, ce qui se fait actuellement et ce qui pourrait être développé pour améliorer leur parcours. Et au niveau des régulateurs, par exemple, on peut conduire des missions sur quelles solutions trouver pour améliorer l'attractivité médicale sur un territoire. Et c'est une mission qu'on va faire, par exemple, pour une ARS.
Ouais, alors moi je suis passé par chez CMI, donc je reconnais très bien la description que tu en fais, et notamment le parcours de soins. Je crois que c'est un peu un axe de travail du partenaire Marc. Non, moi j'ai quitté CMI, j'étais plus dans la practice private equity. Mes missions sont un peu différentes, notamment chez IQVIA, en ayant rejoint cette équipe qui s'appelle Financial Institutions Consulting. En fait, on fait du conseil en stratégie toujours, mais en fait, moi j'accompagne des investisseurs qui souhaitent acheter des sociétés dans la santé. Et en fait, ce genre d'acteurs, investisseurs, parfois ils ne sont pas experts, et ça fait un peu miroir à la phrase que j'ai donnée pour expliquer le conseil. On va devenir les experts de leur investissement, et on va dire, ok, c'est un bon investissement, c'est pas un bon investissement. Donc mes missions, c'est généralement plutôt court, c'est comprendre le business d'une société, comprendre son marché, et comprendre si c'est intéressant tant pour l'investisseur d'un point de vue financier, mais aussi pour plein d'autres facteurs. Est-ce que lancer un nouveau médicament va avoir un impact pour les patients? Est-ce que ça va être intéressant aussi sur l'aspect médical? Et c'est là aussi que IQVIA, en tant que société spécialisée dans la santé, n'apporte pas qu'une vision financière et investisseur, on apporte aussi tout un écosystème dans le milieu de l'investissement, et on leur permet de comprendre l'impact d'un potentiel investissement et l'acquisition d'une société ou d'une fusion-acquisition si un autre client peut être un laboratoire pharmaceutique qui veut en acheter un autre ou lancer un nouveau produit et qui veut investir dans un produit. Pareil, on va les aider un peu à définir les axes stratégiques, à comprendre si c'est intéressant, pas intéressant, ce sur quoi il faut travailler, ce sur quoi il faudrait peut-être réfléchir davantage, etc., etc. C'est vraiment accompagner sur des missions très très courtes, très courtes, la décision d'investissement financier.
Ok, donc que ce soit Pauline ou toi, c'est vraiment des problématiques high level que vous avez. Donc j'ai l'impression que ça nécessite d'avoir une vision très globale des choses pour comprendre ce qui se passe.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est là que rentrent un peu justement les boîtes de conseil. C'est qu'elles essaient d'apporter une vision large, mais une expertise qui peut être détaillée sur plein de sujets. Pauline parlait des ARS. Les ARS, en plus, on est en plein dans l'actualité avec McKinsey, etc., en termes de conseil. Les ARS n'ont pas toujours les compétences, n'ont pas toujours en conseil, on dit la big picture. Ils n'ont pas la big picture, ils n'ont pas la capacité interne d'analyser certaines choses. Et c'est là que les consultants vont rentrer en jeu et vont permettre d'aller analyser des choses de façon très high level, et ensuite de rentrer dans des détails et d'en expliquer les outputs. Pardon, j'habite en Angleterre et j'ai beaucoup de mots anglais dans la tête. Les résultats de l'analyse, et expliquer aux ARS et à d'autres clients, tout type de clients, quelles sont les conséquences d'une décision ou d'un choix stratégique.
Et je pense que ça permet aussi de, pardon, je complète, mais ça permet aussi de, pour en tout cas, enfin, de mon côté, ça permet aussi d'apporter aux clients une vision externe, si on peut dire un peu impartiale, où finalement, voilà, on est mandaté pour faire une mission, on fait un diagnostic, on propose des solutions, mais nous, on n'a pas forcément de parti pris, on n'en a pas d'ailleurs. Et l'objectif, c'est donc de rendre un travail qui sera ensuite, voilà, pris comme tel. Donc, je pense que c'est aussi ça qu'ils viennent chercher parfois. C'est soit le fait qu'ils n'ont pas forcément les ressources en interne, mais c'est aussi qu'ils ont envie d'avoir une vision extérieure qui apportera peut-être un nouvel angle d'attaque sur la problématique et sur les solutions à y apporter.
Tout à fait, l'indépendance, très important.
Ok, je pense que la réponse sera oui, mais est-ce que le métier est différent enfin le métier de consultant est différent en fonction du secteur? Parce que là, vous parlez stratégie, mais j'imagine que ça n'a rien à voir quand on est dans un autre secteur.
Ouais, tout à fait. En fait, tu peux faire du conseil dans plus ou moins tous les milieux. Nous, on parle aujourd'hui plutôt du conseil en stratégie. Et encore, même au sein du conseil en stratégie, tu as plein de types de conseils. Tu peux faire du conseil public avec des institutions publiques. Tu peux faire du conseil en privé. Tu peux, quand tu rentres dans le privé, on peut aller sur de la pharma comme sur des sujets qui ne sont pas pharma. Tu peux appliquer cet univers conseil à plein de choses. Tu peux faire du conseil en marketing, tu peux faire du conseil en affaires réglementaires. Ce n'est pas du tout ce que je fais, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées dans du conseil en affaires réglementaires. Quand un laboratoire pharmaceutique, je ne sais pas, veut lancer un produit dans un nouveau pays, si jamais ils n'ont pas d'équipe localement, peut-être qu'ils ne comprennent pas encore le concept des affaires réglementaires, des challenges qu'il y aura dans ce pays-là. Et là, une société spécialisée en affaires réglementaires peut faire du conseil et dire, écoutez, on va vous expliquer un peu comment ça se passe si vous lancez ce produit-là. Tu peux avoir du conseil en marketing. Les agences de communication, indirectement, elles font du conseil en marketing. Donc, en fait, tu peux appliquer cette notion de conseil à plus ou moins tout. Et c'est un des partenaires de chez CMI, par ailleurs, qui m'avait dit ça une fois, qui m'a dit, le conseil en stratégie et le conseil de façon générale, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister puisque les sociétés devraient être capables de le faire. Sauf que pas dans la réalité, non, les sociétés n'ont pas toujours les ressources. Et c'est pour ça qu'elles font appel à des prestataires externes qui sont qui peuvent être sur tous les sujets.
Et comme disait Pauline, je pense que c'est un gros plus d'avoir aussi un partenaire qui est extérieur, parce que quand on a la tête dans le guidon, on n'arrive plus à voir en fait on n'arrive plus à discerner les choses. Et quelle est la place du pharmacien en cabinet de conseil? Parce que j'imagine que vous, enfin, il n'y a pas une majorité de pharmaciens au final.
Je pense que les pharmaciens, ils apportent une sorte d'expertise large dans l'univers de la santé. On est loin d'être les meilleurs experts comparé à certaines personnes qui peuvent être très spécialisées sur un sujet. Tu prends un type qui a fait une thèse en neuro, il va être une brute sur les aspects scientifiques. Tu prends quelqu'un qui a fait une thèse en médico-éco, je ne sais pas, une dame qui est docteur en médico-économie, elle va être une ponte et super fort sur les aspects médico-éco ou HEOR. En revanche, le pharmacien, par sa formation et notamment industrie, il est un peu touche-à-tout. Donc on est expert en rien, en revanche on est touche-à-tout, on comprend un peu tout. Et on va comprendre, je sais pas, les enjeux du marketing, les enjeux des différents acteurs dans des institutions de santé, le CEP, SCHA, SSRS, etc. On va avoir des notions de market access, de réglementaire. Et on va apporter un petit peu tout ça, qui n'est pas forcément apporté par des consultants, on va dire, plus conventionnels, qui sortent d'une école de commerce et qui n'ont pas vraiment cette vision santé, qui vont l'apprendre, évidemment. Mais le pharmacien qui sort d'études et qui continue, par ailleurs, à apprendre pendant ses boulots en tant que consultant, il apporte toujours cette première base qui est son diplôme de pharmacien. Et aussi, peut-être un autre détail que j'aime bien donner, c'est que les pharmaciens, on apporte une rigueur scientifique et une capacité de raisonnement. C'est très bête à dire, mais on a été sélectionnés sur la P1 parce qu'on avait un cerveau qui fonctionnait. Alors, la plupart des consultants sont sélectionnés sur des cerveaux qui fonctionnent très bien aussi. Mais on peut appliquer ces raisonnements scientifiques, cette rigueur, peut-être pas mathématique, peut-être pas médicale, mais cette rigueur, à différents sujets. Moi, chez CMI, j'ai fait une mission dans l'univers des cheminées et des poêles à bois. Je suis pharmacien, je n'apportais pas grand-chose. En revanche, c'était plutôt une rigueur que j'ai essayé d'apporter sur ce type de projet-là. Et je pense que les pharmaciens, un peu comme quand on dit des ingénieurs, un ingénieur qui est bon à faire réfléchir son cerveau, un pharmacien, c'est pareil. On a des cerveaux qui fonctionnent, j'espère, super vite.
Clairement. Et je trouve qu'on est un peu la glue, en fait, des projets. On va coller un peu les différents bouts et permettre aussi, justement, aux personnes peut-être de dialoguer entre elles, si elles ne se comprennent pas.
Tout à fait.
Et pourquoi vous avez choisi de faire du consulting ?
J'ai fait un premier stage dans un cabinet de conseil également lors de ma cinquième année de pharma. Ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré mes missions et le stage en lui-même. Donc je savais que c'était quelque chose que je voulais garder dans un coin de la tête. Et lors de mon année de master à l'ESCP, j'ai vu l'offre pour CMI. Donc j'ai postulé. En amont, je ne savais pas trop pourquoi je voulais en faire. Mais maintenant que j'y suis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... La raison principale, c'est la diversité des missions, des clients et la montée en compétences rapide. Et comme disait Corentin, le fait d'être très global et de se former très vite sur un sujet, en fait, là, en un an, parce que ça fait un an que je suis chez CMI, j'ai touché à plein d'aires thérapeutiques, à plein de secteurs, des laboratoires différents. J'ai parlé avec des établissements hospitaliers, j'ai parlé avec le régulateur de soins sur des sujets hyper, hyper larges. Donc, bien sûr, je suis experte finalement maintenant en rien, parce que j'ai rien poussé plus de 5 mois de mission, mais par contre j'ai pu voir plein de choses et je pense que c'est quand même ce qu'apporte le conseil, c'est la pluralité des missions, des clients et la montée en compétences rapide.
Ultra stimulant.
Ouais, exactement, la stimulation permanente.
Et tu disais, t'es experte en rien, sauf que plus tu vas continuer à bosser comme ça, plus tu vas connecter tes différents projets que t'as fait dans le passé, et plus tu vas pouvoir avoir cette vision encore plus globale, tout en gardant une certaine expertise sur les sujets que tu as fait. Et c'est là qu'un consultant, on va dire senior, un partenaire, etc., apporte une vraie expertise dans l'univers de la santé, par exemple, parce qu'il aura fait plein de projets sur plein d'aires thérapeutiques, mais en connectant les points un par un, in fine, tu as une vision globale et tu peux te souvenir de ce que tu as fait il y a 2 ans, tu fais c'est dingue, je me souviens d'une chose que j'ai faite, je vais le réutiliser aujourd'hui et en fait j'apporte cette nouvelle compétence, cette façon d'analyser, cette façon de réfléchir, cette méthodo et c'est comme ça que tu apportes de la valeur à tes clients.
Et au final c'est un type d'expertise, je trouve, à part entière.
Tout à fait, d'être capable de répondre à quasiment toutes les questions sur un sujet X, Y ou Z en prenant tous les angles d'attaque, comme disait tout à l'heure Pauline, d'avoir des angles d'attaque différents et des angles d'analyse, d'avoir un esprit critique.
Donc toi c'est pareil Corentin, c'est pour la stimulation, le fait d'avoir plein de missions que tu as choisi de faire consultant.
Oui, comme j'avais monté une startup, j'avais essayé de lever des fonds, j'ai découvert l'univers de l'investissement, qui n'est pas un univers très connu par les pharmaciens à l'origine, qui est plutôt un univers orienté école de commerce, on va dire, et un peu d'ingénieur. Et donc cet univers d'investissement, j'ai trouvé ça incroyable, et je me suis dit, l'univers de la santé, c'est une industrie comme une autre, ça a besoin d'investissement. On va prendre en France, je ne sais pas, la santé, ça doit être 10% du PIB, je n'ai pas les chiffres précis. Mais une industrie qui représente 10% du PIB d'un pays, elle a besoin d'innovation, elle a besoin de financement. Donc elle a besoin de personnes qui investissent dans ce secteur-là. Et je me suis dit, il faut des spécialistes qui sont capables d'investir de l'argent de personnes qui ne connaissent pas la santé, de faire des opérations financières, en apportant cette touche un peu pharmaceutique. Et en tant que pharmacien, je me suis dit, j'ai un truc à faire. Donc je me suis orienté vers l'investissement. Et dans l'investissement, il y a différents acteurs. Il y a l'investisseur qui met les sous, il y a la société dans laquelle on met les sous, il y a les conseils juridiques, il y a les conseils financiers qui sont des banques d'affaires, et il y a aussi les aspects stratégiques. Et moi, j'aime bien la stratégie, j'aime bien dénouer des problèmes, résoudre des problématiques complexes, pour reprendre une phrase qui vient de chez CMI. Et je trouve ça superbe, quand tu es en conseil en stratégie, d'appliquer un petit peu des cases et de comprendre les problématiques, de les attaquer. Et en accompagnant des investisseurs, c'est exactement ce que je faisais. Donc, je me suis dit, le conseil, c'est top. Conseil en stratégie, c'est vers tous les mois, 2 mois. J'ai des nouveaux projets, une nouvelle société, un nouveau pays, un nouveau management à comprendre, des nouvelles problématiques, des nouveaux challenges. Et il faut que j'arrive à résoudre tout ça très rapidement. Donc, la learning curve est relativement chouette. Après, on bosse beaucoup. Et il y a d'autres avantages dont on parlera peut-être après.
Est-ce qu'on est obligé, entre guillemets, de faire une école de commerce pour faire du conseil?
Je pense pas du tout. Comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de conseils différents. Du conseil en stratégie, par exemple, tu peux effectivement plutôt faire une école de commerce pour faire ce type de conseil. Mais tu as des sociétés de conseil en affaires réglementaires, que tu aies fait une école de commerce ou pas, ils s'en fichent. Ils vont avoir besoin que tu aies une expertise sur l'affaire réglementaire, que tu comprennes comment ça fonctionne, comment répondre aux autorités de santé, etc. L'école de commerce, elle t'apporte pas ça. Donc, ça dépend du conseil que tu veux faire, ça dépend de ce que les gens ont comme ambition. Ça dépend de la spécialisation qu'ils aiment. Tu peux faire du conseil en tout, même en production. Tu peux aller faire du lean management dans des usines de production. Ce sera du conseil que tu peux plus ou moins dire conseil management, conseil en stratégie, etc., conseil en organisation. Et tout ça, c'est du conseil. Donc, école de commerce, oui, pour faire certains types de conseils, ça va être préféré. Mais comme ça va être pas forcément préféré pour d'autres types de conseils. L'exemple de l'affaire réglementaire, moi, avec le M-Lyon, j'aurais du mal à y aller.
Oui, par exemple, chez CMI, où au final, on n'est pas spécialisé en affaires réglementaires ou en marketing ou en market access, on est assez large. Il y a à la fois des personnes qui ont fait un très bon parcours, donc pharma plus master ou grande école, école de commerce, mais il y a aussi des personnes qui ont fait Sciences Po, Dauphine, des masters soit tout le parcours en fac et qui après se sont spécialisés en santé. Voilà, c'est aussi une autre façon de voir, mais je pense que l'école de commerce, c'est apprécié si c'est cohérent avec le parcours, mais c'est pas du tout une obligation et ça va vraiment dépendre du type de conseil et aussi du type de cabinet, je pense.
Je vois. Ok. Et justement, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Corentin, quels sont les avantages et inconvénients à être consultant?
On va commencer par les inconvénients. Les inconvénients, c'est que ça dépend pareil, ça dépend des sociétés, ça dépend des projets, des clients, etc. L'univers de l'investissement dans lequel j'évolue, on travaille énormément. Que le 35 heures français, je le connais plus, et ça fait quelques années que je le connais plus. C'est un sacrifice que j'ai choisi de faire, parce que j'apprends beaucoup de choses, parce que j'aime ça, je suis stimulé par des collègues. L'avantage aussi du conseil, et notamment du conseil en stratégie, c'est que souvent, même s'il y a toujours des exceptions, c'est que les gens souvent sont très intelligents, et moi je suis admiratif de beaucoup de mes collègues, et j'aime beaucoup être stimulé par eux. Ils m'apportent beaucoup de choses, j'espère leur apporter des choses, mais je suis très admiratif, grand temps, de leur parcours, de leurs compétences, de leur réactivité, de leur esprit d'analyse, etc. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc c'est pour ça que j'accepte de faire ce sacrifice, par exemple, sur mon temps de travail à la semaine, parce que j'aime travailler avec ces gens-là. C'est comme si quelqu'un, j'en sais rien, est développeur informatique, qui travaille dans l'informatique la journée et que le soir, il a ses projets perso en informatique. Bon, il est peut-être moins payé sur ses projets perso, mais il fait la même chose. Moi, c'est à peu près pareil, sauf que bon, bah, je travaille beaucoup plus tard, le soir, pas sur mes projets perso, mais parce que j'aime ce que je fais et parce que j'aime mes collègues, j'apprécie mes clients, j'aime bien les stimuler, les challenger. Et ça, c'est un peu un inconvénient, in fine, notamment pour la vie personnelle, les amis, la famille, etc. Pour les avantages, le conseil en strat et le conseil de façon générale peut être un milieu dans lequel on peut gagner bien sa vie, c'est clair et net. C'est un peu la récompense pour le sacrifice, par exemple, du temps de travail, de la pression qu'on peut subir de la part des collègues, mais aussi de la part des clients. C'est que, in fine, on est censé gagner pas trop mal notre vie.
Ok. Et toi, Pauline, du coup, ta vision des choses ?
Oui, mais si, c'est, enfin, globalement, c'est à peu près les mêmes avantages et inconvénients. Après, en avantage, je rajouterais, en tout cas pour les cabinets pour lesquels c'est le cas, et c'est le cas pour moi, le fait d'avoir une variété de clients et d'interlocuteurs, du coup, ça, c'est hyper formateur, surtout quand on est très jeune, parce qu'on s'adresse à la fois à des directeurs d'établissement, à des chefs de produits dans des laboratoires pharmaceutiques, à des personnes qui travaillent dans des ARS. Donc, enfin, c'est très large, et donc, il faut tout le temps s'adapter à sa façon de s'adresser, à sa façon de communiquer. Donc, déjà, ça, je trouve ça hyper formateur. Et aussi, bah, ça rejoint ce que tu as dit, Corentin, sur le fait de travailler avec des personnes hyper, hyper intelligentes et hyper stimulantes. Je trouve qu'il y a aussi le fait que tout le monde, en fait, a envie d'avancer sur le projet et qu'il n'y a pas de personnes, encore une fois, sauf exception, qui sont contre l'avancée de la mission. C'est pas siloté. J'ai des amis qui me racontent que si le département d'à côté ne veut pas avancer, et bah, l'autre avancera pas, et ça peut durer pendant un an sans que personne n'avance parce que personne ne veut prendre le problème. Je pense que dans le conseil, c'est quand même pas du tout le cas. Tout le monde veut que ça avance et donc tout le monde se soutient. Il y a vraiment une proactivité, un dynamisme qui est ça, je trouve. Moi, je trouve c'est hyper important pour moi que tout le monde soit dans cet esprit. Et après, côté inconvénient, bah, en effet, les horaires assez larges, la pression quand même qui est. Enfin, pas la pression, mais l'exigence de résultats, qui du coup va forcément avec un peu de pression, mais voilà, on est toujours assez challengé, on n'a pas trop le droit à l'erreur. En tout cas, on ne peut pas se permettre de faire trop d'erreurs trop souvent. Donc ça, c'est pas toujours évident, mais voilà, je trouve que si les missions nous plaisent et qu'on recherche ce dynamisme et cette variété de missions et cette montée en compétences, on accepte largement de travailler beaucoup et d'avoir des résultats exigeants.
Et pour éviter que je passe pour le type qui a parlé que de l'argent sur les avantages, que c'est pas le cas du tout. Non, ce que j'aime aussi beaucoup dans le conseil, et je pense que c'est le cas pour la plupart des missions conseil, la plupart des entreprises, c'est l'exposition et la responsabilité, même pour des juniors. Chez CMI et chez IQVIA, je suis exposé à des gens qui sont vraiment, qui ont des pouvoirs décisionnels au sein de leur structure et pour nos clients. Et c'est à nous de leur expliquer, même en tant que junior, parce que tu produis les slides, tu produis les analyses, c'est toi qui fais les modèles, etc. Tu vas défendre tes idées, même si, évidemment, tu seras soutenu par tes seniors. En revanche, tu fais partie de la mission, tu fais partie de l'analyse. Et donc, tu vas être exposé à des gens qui sont parfois très haut placés. Ça peut être des CEO de société, ça peut être des directeurs de business unit. Moi, dans mon cas, ce sont des investisseurs qui sont très importants, on va dire, dans le monde de la santé. Et voilà, malgré, au début, quand j'ai commencé en tant que junior, j'étais exposé à ces gens-là, je leur parlais, je leur expliquais ce que j'avais fait. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir cette exposition et cette responsabilité, et pas simplement de dépendre de ton N+1, N+2, N+3, oui, j'attends que mon directeur me dise oui, me dise non, etc., il va me dire ça la semaine prochaine. Là, c'est non, il y a une responsabilité et un besoin de proactivité que j'aime énormément.
Vous êtes bons tous les deux, là, vous m'avez presque convaincu de rejoindre une agence de conseil, vraiment. Vous êtes passionné
du podcast.
Ouais, ouais, clairement, ça fait plaisir en tout cas. Et justement, pour nous donner un petit peu une idée, vous travaillez combien d'heures par semaine ?
Ouais. Est-ce qu'on compte ?
Je peux regarder ma timesheet de la semaine dernière, je sais pas, en moyenne, je suis entre 60 et 80 heures par semaine.
Oh, ah ouais, donc tu travailles le week-end aussi ?
J'essaie de pas travailler le week-end pour garder un équilibre et pouvoir déconnecter. Mais ouais, je pense 60 heures semaine, ouais, en moyenne. 60-65. Ça finit tard le soir, mais il y a des avantages. Quand je vais au bureau, le dîner est payé par le bureau ou par le client, mon taxi est payé. C'est des petites compensations, tu vois, pour nous faire tolérer ce rythme, mais que moi, j'apprécie terriblement en soi parce que je suis stimulé, ce que j'ai tout à l'heure. Toute la journée, je travaille, j'aime ça et en fait, ça me dérange pas.
Et toi, Pauline ?
Oui, alors 80 heures, non, parce que j'ai fait le calcul sur 5 jours et du coup, ça faisait trop. En tout cas, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Oui, c'est ça, entre 60 heures en moyenne, on va dire 12 heures par jour, quoi, pour le lycée. Pas de travail le week-end, sauf cas exceptionnel, vraiment un impératif, mais sinon, vraiment, c'est pas quelque chose que, en tout cas, moi, je fais, parce que voilà, l'équilibre vie pro-vie perso, il faut se l'accorder. Mais en moyenne, oui, sur du 12 heures par jour, quoi.
Ok. Faut pas être
flemmard.
Ouais,
les 80, c'est quand je fais le week-end, hein, pardon. Oui. Je préfère être précis. C'est juste qu'en fait, je dois aussi mettre mes heures dans mon système. Si j'en fais le week-end, je les mets. Donc quand je vois mon total semaine précédente et que je vois 79, ça fait quand même mal, effectivement, quand je ramène sur 5 jours. Mais il faut que je me rappelle que j'ai bossé le samedi et le dimanche. Ça, c'est un peu triste.
Non, mais clairement, je pense qu'il faut être passionné. C'est quand t'es passionné que tu travailles comme ça, clairement. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de salaire?
Oui, aucun problème. Je ne vais pas donner mon salaire précis si jamais je les connais qui m'écoutent, parce que je suis peut-être moins payé qu'eux. Mais je pense que l'univers du conseil, ce qu'on a touché un peu rapidement, ce dont on a touché tout à l'heure rapidement, c'est que ça peut être un milieu dans lequel tu peux bien gagner ta vie. Je pense qu'un junior, ça dépend des sociétés, ça dépend des secteurs, mais il commence entre, je pense, 40 et 50 en total package, quand tu es pharmacien plus un master. Et ensuite, tu évolues relativement vite par rapport à d'autres industries, dans la mesure où souvent tu bosses beaucoup, il y en a qui sont fatigués au bout d'un, deux, trois, quatre, cinq ans et qui vont partir. Et une des raisons pour lesquelles parfois ils restent, et l'argument qu'apportent les sociétés, c'est ben non, mais tu auras un plus gros bonus l'année prochaine, etc. Je pense que tu commences entre, allez, on va dire entre 38 et 52, ça dépend des sociétés, et tu prends entre 4 et 6 000 de plus par an, je pense, en total package.
Donc je précise que là, on est en brut année. Hein.
Oui, pardon.
Oui.
Non, c'est net, net par
net après impôt.
Ok, super. Est-ce que c'est difficile après de revenir en labo si on le souhaite?
Bah, pour ma part, j'ai pas encore été confrontée à cette question. Je pense que non. Au contraire, c'est une expérience qui peut tout à fait être valorisée au sein des laboratoires. Après, je pense qu'il faut juste voir en fonction du type de conseil qu'on fait. Si on est généraliste, si on est plus spécialisé, ça n'amènera pas forcément au même poste. Mais en tout cas, pour les échos que j'ai de personnes plus seniors qui sont reparties ensuite en laboratoire pharmaceutique après avoir fait du conseil en strat en santé, ils ont trouvé des postes tout à fait cohérents avec ce qu'ils avaient fait en conseil. Et je pense que ça permet quand même d'ouvrir... Ça ouvre peut-être moins de portes que quand on fait le parcours classique en labo, mais à la fois, ça ouvre peut-être des portes plus spécifiques et peut-être, mais ça, je m'avance peut-être, donc... sur le fait d'arriver à des postes peut-être plus élevés, du fait qu'on considère qu'en 5 ans en conseil, c'est pas que la question d'avoir plus travaillé, mais on a vu plus de choses, on a été plus vite monté en responsabilité, en compétence, comme disait Corentin, on monte vite, plus vite peut-être en grade, ce genre de choses. Donc il y a potentiellement peut-être un accès peut-être plus difficile, mais à la fois qui permet d'accéder à des postes un peu plus haut, j'ai l'impression, après.
Non, complètement d'accord. Effectivement, comme disait Pauline, quand tu es en conseil dans l'industrie pharmaceutique, tes clients qui bossent avec toi, c'est parce qu'ils ont besoin de ces compétences-là, qu'ils n'ont pas en interne. Donc, c'est pas, je ne dis pas que c'est fréquent, mais c'est pas rare non plus de voir un consultant rejoindre quelque part son client parce qu'il y a eu un bon fit pendant 6 mois de projet et ils disent, bon, bah, autant créer un poste en interne. Cette personne-là est tellement incroyable, autant l'intégrer, ce sera plus safe de l'avoir tous les jours avec nous.
Ok, super intéressant. Et donc là, on arrive sur la fin de l'interview. Et je voudrais savoir quelles sont les perspectives d'évolution quand on est consultant.
Consultant, tu as plein de directions que tu peux prendre. Souvent, tu commences, tu peux être freelance et rester freelance toute ta vie de ton côté ou soutenu par une structure qui t'apporte des clients, etc. Quand tu bosses pour une société, tu as différents types de sociétés. Soit tu grimpes les échelons, soit tu es fatigué ou tu veux faire autre chose et tu rejoins un client, soit tu restes dans le consulting. Tu as des sociétés qui te permettent donc de monter en compétences, en grade, tu restes employé, donc tu es un employé salarié. Il y a des sociétés qui te permettent des partnerships, donc en fait tu deviens actionnaire de la société. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de partenaires, parce qu'ils ont des partnerships, donc en gros ils sont actionnaires de la société. Tu en as d'autres qui, avant d'atteindre ce statut, ou même pendant qu'ils sont au statut, créent des sociétés à part entière en disant ok, maintenant que j'ai un réseau de clients potentiels. Je vais arrêter de dépendre de la société XYZ et je vais créer ma structure à moi et j'ai 3 personnes qui bossent avec moi à qui je vais proposer de rejoindre l'aventure. Et sinon, le pathway de retourner ce qu'on appelle en industrie pour retrouver le monde hors conseil. C'est un peu ma vision de l'évolution des consultants.
Ok, et justement, c'est quoi vos projets? Est-ce que vous avez là vos projets à moyen, à long terme?
De mon côté, encore une fois, c'est le début, mais c'est de rester encore quelques temps, quelques années, salarié du conseil en strat, en santé, très certainement chez CMI, après avoir tout poste passé, etc. On ne sait pas comment ça évolue, mais en tout cas, au moins d'avoir une expérience solide de 4-5 ans.
Ouais, moi j'ai à peu près pareil. Une vision non pas à long terme, j'aimerais bien rejoindre l'univers de l'investissement, être investisseur, gérer l'argent de personnes et le mettre dans des sociétés et aider ces sociétés à grandir et à innover. Pour l'instant, je pense que le conseil m'apporte beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses, je fais fructifier mon expertise dans la santé et dans l'investissement. Je pense rester un petit moment chez IQVIA ou ailleurs, je ne sais pas, mais dans cet univers-là parce que beaucoup d'avantages et je suis très heureux.
Ok, super. Et pour finir, est-ce que vous avez un conseil ou une inspiration positive à partager aux auditeurs avant de nous quitter?
C'est très vaste. Non, peut-être un conseil, c'est ne pas hésiter à ouvrir les portes et à parler aux gens. Le conseil, c'est un monde dans lequel le réseau est important. Et un truc très bête, mais quand Pauline a rejoint CMI, on a discuté parce qu'on était à l'UMI de Paris 11. Et c'est exactement, je pense, la bonne démarche, c'est de se renseigner sur okay, la société que je veux intégrer, sur ce que je voudrais faire, poser des questions et bénéficier un peu du réseau, notamment que Paris 11 propose, par exemple, parce qu'on est quand même beaucoup de pharmaciens à sortir tous les ans, et ce depuis très longtemps, de cette faculté. C'est ouvrir les portes, ne pas hésiter, ne pas être timide, poser les questions, essayer de trouver les réponses par soi-même pour ensuite prendre des décisions, grand temps qu'on ne regrette jamais, et surtout, derrière, re-rendre des services. J'aime beaucoup, moi, parce qu'on m'a tellement aidé dans la vie. J'ai contacté des anciens de Paris 11 qui m'ont beaucoup aidé. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie de faire un peu pas pareil, à mon petit niveau. Mais je pense que ouvrir des portes et permettre aux personnes d'ouvrir les portes, c'est très important.
Et aussi pour les. Moi, je m'adresse du coup encore plus junior, parce que j'étais en école il n'y a pas si longtemps que ça, c'est de vraiment pas se. Enfin, je veux dire, pas se prendre la tête de manière trop importante sur les candidatures, sur les stages, sur le premier stage qu'on fait. Enfin, je sais que c'est facile à dire et j'avais les mêmes interrogations il y a un an, donc voilà. Mais vraiment, on peut changer, on peut faire un premier stage en conseil et faire ensuite repartir en labo sans aucun problème. On peut faire l'inverse, on peut faire un stage en labo puis aller voir le conseil parce qu'on se rend compte que ça nous plaît. Voilà, il n'y a pas de limite, on est jeune, on a un bon diplôme, en tout cas, enfin là, pour les pharmaciens, enfin pour d'autres aussi, mais je m'adresse aux pharmaciens. Diplôme pharmacie plus école de commerce ou école d'ingé ou fac, c'est un super diplôme, hyper valorisé et enfin, hyper valorisant pour nous. Donc ne pas se mettre de barrières, tester, et comme disait Corentin, parler à des anciens, parce que le réseau est quand même super large. À la fois, on est un petit milieu, mais finalement, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, justement. Et on peut toujours retomber sur nos pattes à trouver quelqu'un qui fait, en fait, du market access en labo, alors que moi, je suis en conseil en stratégie chez CMI. Enfin, voilà, tout est connecté.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, Le Journal du Pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.